Merci Sonia et Alindy. Pour l'heure, ça fait tellement de bien de rentrer chez soi.
Personne ne pourrait croire que des hommes aiment un volcan. Et pourtant, dans la bataille, combien de fois ai-je craint de ne jamais le revoir? J'ai rarement vu le Vésuve aussi beau que ce soir. Centurion Glaucus, heureux vainqueur de Palestine et de Syrie, et ami de Titus, laisse-moi t'offrir l'opulence de notre merveilleuse cité. Elle est riche en barriques pleines de vins vieux et en filles jeunes et jolies.
Que Jupiter soit avec nous, Marcus. Ce qu'il y a de meilleur pour nous dans les guerres, c'est le retour, la maison, le feu dans la cheminée, et puis nos femmes. Ne les oublions pas.
Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, cela concerne le temps. Je vais vous demander à présent d'assister à la démonstration de la possibilité de mouvement à travers le temps. Comment ferez-vous pour revenir ? C'est un risque que je suis prêt à courir. L'espace.
Amaury Chardon.
Une page d'histoire arrachée au temps et mise en récit par un texte des archives et une bande originale sur mesure. Trajectoire singulière, épopée collective, une heure pour rêvasser en musique chaque vendredi de 14h à 15h et à tout instant sur franceculture.fr. Voici Métronomique. Aujourd'hui, Métronomique nous ramènera à Pompéi, petite cité prospère de la Rome antique située sur les flancs du mont Vésuve et que l'éruption de ce dernier, un jour de l'an 79, avait, en quelques heures, rayé de la carte. La mise au jour, 1700 ans plus tard, de cette cité ensevelie et son état de conservation exceptionnel ne cesse depuis de fasciner les hommes et de révéler de nouveaux secrets. Dans cette histoire, on croisera des murs bavards, des ambitions électorales, des pectoraux saillants, des fontaines asséchées et même Alain Delon parmi les ruines. Aujourd'hui, Pompéi, Memento Mori. Cette fin de journée, le ciel est clair et au loin, on distingue bien la baie et en contrebas, les voiles blanches privées de vent qui croisent mollement sur l'eau. Les silhouettes d'Herculanum et de Naples sur la droite, de Pompéi et de Stabie sur la gauche. Il fait bon, l'automne est juste en train de tomber et du sommet de la montagne qui domine ce panorama de Campanie, une chèvre échappée d'un troupeau prend l'air. La lumière joue sur les oliviers, les blés, les chemins de terre, les pentes douces, les vignes qu'on a vendangées quelques semaines plus tôt et dont un esclave sur sa carriole achemine quelques amphores en ville. Si l'on s'approche, on peut l'entendre, cet esclave, les rênes en main, siffloter. On constate également que les roues cerclées de l'attelage s'enfoncent plus que de coutume dans la terre rocailleuse du mont Vésuve. Une terre chaude, meuble, qui se craquelle discrètement et qui, par intermittence, vibre. C'est à peine perceptible, à part si l'on observe attentivement la végétation au bord du chemin. Les flancs de la montagne montent en température depuis quelques jours, 40 ou 50 degrés en surface, le double à 20 cm de profondeur et jusqu'à 150 degrés 2 mètres sous terre. Tandis qu'à la surface, les chèvres continuent de cavaler comme si de rien n'était, les entrailles de la montagne remuent dans une grande tambouille de chaleur et de pression. Ce soir-là, pourtant, en l'absence de fumerolles, les humains profitent surtout d'une belle fin de journée et le convoyeur s'achemine lentement vers Pompéi où il doit livrer ses amphores en vue d'une fête le surlendemain. Tout en sifflant, il observe rêveusement cette campagne généreuse, ces terres riches et fertiles, le mont Somma et sa cime aplatie et, à ses côtés, le mont Vésuve, ces montagnes douces qui, de mémoire d'homme, n'ont jamais fait parler d'elles. Il n'existe d'ailleurs pas de mot latin pour désigner un volcan.
You can run on for a long time, run on
gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
Tu peux continuer aussi longtemps que tu veux, un jour ou l'autre, Dieu te fauchera. Va dire à ce menteur, à la langue bien pendue, à ce cavalier de la nuit, dis à tous les vagabonds, les parieurs, les médisants, dis-leur que Dieu les fauchera. Johnny Cash, God's Gonna Cut You Down, 2003, après Jésus-Christ. Ce matin, elle s'est réveillée d'une humeur massacrante. La nuit précédente, elle n'a pas trouvé le sommeil, se débattant dans un interminable cauchemar où une bande de chrétiens répandait le sang dans toute la cité à la lueur d'une lune rousse. Épuisée, sur les nerfs, ce matin, tout indispose Gradiella. Et cette maison qui résonne tant. Dans l'atrium, son mari va et vient, s'agite, donne des ordres, et dès qu'il l'aperçoit, l'assaille de questions, lui demandant son avis sur l'agencement du mobilier, s'il faudrait ou pas déplacer telle colonne, ajouter des flambeaux, comment il faudrait disposer les banquettes, et qui commande, une statue là, ici, la construction d'un banc en pierre, et autour de qui s'agite une foule de petites mains serviles. Feignant de ne pas entendre, Gradiella s'absorbe dans la contemplation des poissons du bassin. C'est alors qu'elle sent sur elle un regard. Elle tourne la tête et aperçoit dans le tablinum adjacent Albanus, ce maudit lettriste, patientant comme toujours dans son coin. Elle ne peut plus le voir, lui, ses traits anguleux, sa mine chafouine. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'il soit là. Ce qui ne risque pas, hélas, de s'arrêter. Son mari et ses nouvelles ambitions politiques s'est mis en tête que l'heure de son élection comme doumvir de la ville est venue. Sans doute ce foutu publicitaire vient-il aujourd'hui encore chercher de nouvelles instructions pour mieux aller peinturlurer sur quelques maisons les vertus morales du grand Julius Flavius. C'est comme ça que ça marche ici. On peint, ou on fait peindre par ses amis, des messages sur les murs des maisons pour vanter ses propres mérites. Et on se fait élire. Au diable alors, la tranquillité de son foyer et de son couple. Butant contre des amphores de vin qu'on a livrés la veille et laissés traîner dans le passage, Gradiella s'impatiente. Elle fait alors signe à une esclave de la suivre dehors et toutes deux s'engouffrent dans la rue.
Ora ora piangi per me, come ho pianto per te. Mi domandi perché non ritorno da te. Se vuoi, non per questo mi avrai, nel passato lo sai, non si può tornar mai.
Maintenant tu pleures pour moi comme j'ai pleuré pour toi, tu me demandes pourquoi je ne te reviens pas, tu ne sais pas qu'un volcan est mort, je l'ai éteint avec les larmes que j'ai versées, l'amour que j'avais pour toi, je l'ai jeté au fond de la mer. Comme la chanteuse Mina dans ce Vulcano de 1963, les habitants de Pompéi, cette fin de premier siècle, pensent eux aussi que leur volcan est mort. Sauf que les concernant, c'est surtout dû au fait que des volcans, de leur mécanique interne, ils ignorent tout. Du réveil furieux du Vésuve 3 siècles plus tôt, par exemple, la mémoire s'est perdue, ou du moins s'est-elle noyée dans la prétendue colère des dieux. Pour les Pompéiens, il y a des montagnes et des plaines, mais les nuances touchant à l'activité sismique qui reste pour eux du chinois. Graziella, que nous suivons donc ce matin dans les rues de Pompéi, sait pourtant, à sa manière, ce qu'avoir une montagne éteinte dans le cœur signifie. Elle qui, ces derniers mois, voit son couple périclité au profit des ambitions électorales de son mari. Des mois que ça dure, des mois qu'il passe toutes ses soirées dans les tavernes de la ville à travailler son réseau à coups de vin lourd coupé à l'eau. Graziella se sent mieux d'être sortie, de pouvoir prendre l'air hors de l'orbite de ce mari obsédé de res publica, d'arpenter à sa guise les ruelles ombragées. Même si, évidemment, chaque coin de rue la ramène à la politique, avec tous ces graffitis couvrant les murs, vestiges de la dernière élection de juillet dernier. Peintes en rouge ou en noir, les inscriptions ne sont pas encore effacées, en tout cas celles vantant les heureux élus, le nom de leurs infortunés opposants. Il n'y a guère que chez elle que la politique fait tant jaser en cette saison, depuis que son Julius Flavius de Mecque et sa vanité s'est mise en tête que son heure à lui était venue.
La vanité, ce n'est qu'un mot, mais c'est le pire de tes défauts, le seul que je ne supporte pas, le seul qui m'éloigne de toi, celui qui me fait dire tout bas, quelquefois, à mi-voix. La vanité est un péché, je voudrais tellement t'empêcher de tout gâcher, de gâcher ça, de tout briser d'un geste là, de remiser au débarras l'amour fou qui rend fou, reines et rois. La vanité est une offense à l'âme perdue de l'enfance, à mon intelligence ou pas, peu m'importe le résultat, peu m'importe le résultat, il n'est pas digne de toi. La vanité vue sous cet angle n'est pas la main qui nous étrangle, juste le soleil qui tournoie lorsqu'on voudrait qu'il reste droit. Mais à la longue on s'aperçoit quelle fissure, le futur délicat.
Benjamin Biolay, La Vanité. Graziella, vêtue d'une tunique de lin blanc brodée de fils d'or, marche donc d'un pas souple sur le trottoir. Dans les rues, essentiellement des esclaves ou des affranchis. C'est l'heure du marché, où on s'échange des fruits, des olives, des choux, du vin. L'odeur des fruits juteux se mêle à celle lourde des bêtes de somme tirant sur la chaussée de lourdes marchandises. Assis sur le haut rebord des trottoirs, des voisins bavardent entre eux. À l'angle d'une rue, des esclaves prennent de l'eau à la fontaine. Au loin parviennent les rythmes des cymbalums et des tambourins de musiciens ambulants. Graziella quitte l'artère principale pour s'engouffrer dans une venelle. Elle y croise les yeux vides d'une vieille femme misérable au dos courbé qui lui tend la main pour lire dans la sienne. Elle refuse d'un hochement de tête et poursuit sa route. Partout, ses yeux accrochent les inscriptions qui recouvrent les murs. Profession de foi électorale, injures, messages personnels, menaces. Chieur, attention à toi, si tu fais quand même que Jupiter te maudisse. Graziella s'ennuie tant. En temps normal, elle serait allée se détendre au terme, mais ceux des femmes n'ont pas encore réouvert. Cette ville, décidément, n'en finit pas de se reconstruire. C'est alors que, tandis qu'elle enjambe une pierre de guet, la terre se met à trembler. Ça dure une poignée de secondes et puis ça s'arrête. Dans l'intervalle, perdant l'équilibre, Graziella a trébuché, s'étalant de tout son long sur le sol en terre battue. Travaillant sur une maison voisine, un artisan s'approche et l'aide à se relever. Pas plus elle que lui ne s'alarme de cette secousse. Tous deux ont l'habitude. Oui, la terre tremble par ici, mais rien de grave. Et puis ça fait tourner les affaires, ça donne du travail aux artisans. Ces dernières années, Pompéi ne manque pas de chantiers, comme dans cette vaste maison dont l'artisan supervise alors la reconstruction du péristyle effondré. Le 5 février 62, une secousse plus puissante que les autres avait frappé la ville, jetant les temples à terre, effondrant nombre de maisons, abattant les murailles. Il y avait eu d'autres choses plus étranges encore, des centaines de moutons morts asphyxiés par l'air vicié, avait noté Sénèque. Sans doute du dioxyde de carbone recraché des entrailles de la terre, mais ça, à l'époque, personne n'en sait rien. Bref, c'était il y a 17 ans et depuis, de l'eau a passé sur l'aqueduc. Et ce jour de l'an 79, personne ne voit une quelconque raison de s'alarmer de ces nouvelles vibrations de la terre. Il en faut plus pour empêcher Pompéi la prospère de se relever et partout, à travers la ville, des chantiers produisent le tic-tic rassurant des tailleurs de pierre, signe de la résilience des Pompéiens.
Golden dream, the seat of all decorum, the satellite to match the light of Rome. It's silver children chattering the forum, bathhouse and the brothel. And the hopes about the latest fashions for the clothes across the Tyrrhenian Sea comes drifting.
the ladies in their Dionysian rites. Blonde heads all garlanded with flowers, wine and love and laughter through the night. Constant flight. The ground below them whispers in a murmur of passion that is hotter yet than wine. City of all cities, its towers piercing into azure sky, whose hand is dealt regardless of all pity, condemned to martyrdom but not to die. Wine has stood too long and it turned sour. I see the tall and bending of the streets, with now the echo only leather tourist feet and waking ashen grey blue blinding death the sudden winding sheet.
Le rêve d'or, le siège de tout décorum, satellites renvoyant la lumière de Rome, ces enfants d'argent discutent au forum dans les thermes, les bordels et les maisons des dernières modes vestimentaires. À travers la mer tyrrhénienne leur parvient une chanson qu'aucun d'eux n'a jamais entendue, le Britannique Peter Hamill pour ce Pompéi 1975. Faute de pouvoir aller au terme, Graziella se dit qu'elle pourrait peut-être aller regarder les gladiateurs s'entraîner. À Pompéi, comme dans tout l'Empire romain, ces derniers jouissent d'une immense popularité et à mesure qu'elle s'avance dans la rue de Stabie, vers la caserne où ils s'entraînent, les murs des maisons voisines se couvrent de messages vantant leur puissance et sollicitant leur faveur.
Céladus, le Thrace, fait soupirer d'amour
le cœur d'une jeune fille.
Située contre les deux théâtres de la ville, la caserne des gladiateurs, une grande place fermée et semi-abritée, était à l'origine un lieu de promenade des spectateurs entre deux représentations. Mais depuis le tremblement de terre de 62 et l'intérêt grandissant pour les jeux, l'espace a été transformé pour y loger ces combattants professionnels formés dans des écoles et leur permettre de s'entraîner. Graziella espère bien qu'elle pourra se rincer l'œil en assistant à leurs exercices. La saison des spectacles n'est pas encore finie, il reste encore des dates prévues à l'amphithéâtre d'ici à la fin du mois de novembre. Sur place, elle déambule, l'air de rien, sous le portique et observe de fait un groupe de gladiateurs à l'entraînement. Le soleil tape fort, ils ont laissé par terre leurs casques, leurs jambières et autres ceintures de métal et se battent à mains nues. Le soleil cogne contre ses corps, ses rocs. Tapis contre l'une des 74 colonnes doriques qui encadrent la place, elle ne perd pas une goutte que ces brutes professionnelles l'exsudent.
Superstar, j'ai tellement besoin d'amour. bas. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi ta belle de jour. De quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout mon loubar, tu serais mon lascar superstar. Et moi j'ai si peur dans le noir.
Métronomique, aujourd'hui, Pompéi, Memento Mori. Les Brigittes, battez-vous, 2011. Les combats de gladiateurs, Graziella n'en manque pas un. Elle aime ses démonstrations de puissance, ses affrontements d'homme à homme. 30 ou 40 face à face étalés sur plusieurs jours. Elle en aime le suspense, l'issue souvent fatale, même si les meilleurs de ses combattants sont souvent sauvés par le public ou les magistrats. Non, le seul truc qu'elle n'aime pas, c'est les combats contre des animaux. C'est pour ça qu'elle arrive plus tard aux arènes, dans l'après-midi, après les vénatiaux, ces combats d'hommes réduits à affronter des fauves excités par l'obscurité et les privations. Et puis, après les exécutions publiques qu'on intercale souvent pendant la pause déjeuner. Ces exécutions grotesques, mises en scène mythiques, comme cette fois où on a lâché dans le vide un prisonnier à qui on avait collé dans le dos des ailes de cire. Non, elle vient pour les gladiateurs, leurs casques énormes et brillants, leurs lames renvoyant le soleil, le sang sur le sable, cette mécanique héroïque. Pendant quelques années, ces combats, organisés par de riches notables de la ville comme Caius Aelius Nigidius Maius, le prince des impresarios, avaient été interdits à la suite d'une rixe qui avait éclaté en 59. Ce jour-là, la violence de la reine avait contaminé les gradins de l'amphithéâtre où avaient pris place, outre les habitants de Pompéi, ceux de la cité voisine de Nocera, qui, les premiers, avaient bombé le torse et joué les fiers à bras. Tacite rapporte l'événement. Comme il arrive d'ordinaire dans les petites villes, on échangea d'abord des quolibets sans retenue, puis des pierres, et on finit par en venir aux armes. La plèbe de Pompéi eut le dessus. À la suite de cette vaste empoignade qui avait fait des morts, Néron, alors empereur, avait décrété qu'aucun combat de gladiateurs n'aurait lieu à Pompéi pendant 10 ans. 5 ans plus tard, toutefois, les jeux avaient repris. L'empereur, sans doute incité à la clémence par sa nouvelle épouse, la jeune Poppée, originaire de Pompéi. Elle avait dû glisser à l'oreille de l'empereur combien les Pompéiens ne pouvaient pas vivre sans le frisson du spectacle de la reine.
Quand je rentre dans l'arène, je suis comme un dieu qui s'amène. Même le fil il me mène, je suis impérieux et suprême. La démesure bien huilée, la masse criminelle. Je suis porté, transporté, tu ne cesses d'exister. Tu ne peux que capituler, tu sens mon aura rayonner. Je suis comme une vieille bâtisse, capable de tenir des siècles. Quand je rentre dans l'arène, non plus rien ne me freine. C'est inscrit dans mes gènes, c'est comme mon ADN.
Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés.
Je suis marqué au feu, c'est comme si je t'échappais terre. Rassemble tes troupes pendant que je rassemble les foules. C'est comme si le monde était en feu, comme on offre trois les boules. J'assure les arrières, pas de décrépitude. Constant fortifie l'attitude. La reine se chie dessus, les MC se chie dessus. Rayonnement constant fortifie l'attitude. La reine se chie dessus, les MC se chie dessus.
Oh, par les fleurs, les cris, les guerriers, clèves en main dans l'arène, nous sommes des seigneurs. Portés par le pouvoir, pire qu'un gladiateur. Dans l'arène, nous sommes les seigneurs.
Je me sens comme un dieu maintenant, j'ai les deux pieds dans l'arène maintenant. Jeune titan bipolaire, pareil pour la guerre et pire maintenant. Laisse du sang, des larmes et des ruines derrière nous. Grandiose depuis le début, transformé par la foule. Là-bas, ouais, je suis dans l'arène, comme un dieu qui s'amène. Le ciel guide mes gestes, les enfers nous mènent. La force est calme et sereine, mon sang règne. Domine, je suis un seigneur, je marche plus, je l'évite.
Oh, par les fleurs, les cris, les guerriers, clèves en main dans l'arène. Nous sommes des seigneurs, portés par le pouvoir.
Joe Estar et Nati, la reine. À la fin de l'entraînement, les gladiateurs s'attardent. Certains vont prendre leur bain, d'autres se dirigent vers le forum. N'osant les aborder sous les yeux des curieux, Gradiella, accompagné de son esclave, les suit à bonne distance dans la rue des Stabies, de l'Abondance, puis dans celle du Lupanar. Un moment, elle redoute que ces hommes ne s'arrêtent voir les filles, les prostituées de la ville, Palmyre l'Orientale, Aglaé la Grecque, Maria la Juive, Smyrna l'Exotique, dont partout encore des graffitis vendent sur les murs les charmes tarifés. Mais non. Les gladiateurs poursuivent leur route et Gradiella derrière eux, dans cette ville où les habitants vivent sereinement, se sachant protégés par Vénus et Scylla. La ville étant placée sous le double signe de l'amour et du bonheur. Partout, les innombrables fresques et représentations érotiques, qu'il s'agisse de nudité étalée, celle des dieux Mars et Vénus, ou de phallus géants, illustrant autant la fertilité que la puissance du patriarcat. C'est alors que le gladiateur de gauche, un prénommé Gangens, le champion des gladiateurs de la ville et celui sur qui lorgne en particulier Gradiella, se retourne. Constatant qu'il fait l'objet d'attentions si charmantes, il s'approche de sa mystérieuse suiveuse et, laissant les autres poursuivre vers le forum, il emmène son admiratrice vers la caserne.
On m'avait dit ne tourne pas autour d'elle. Comme tant d'autres, tu vas brûler tes ailes. C'est un volcan, cette fille-là. Oh là là, c'est le Vésuve et l'Etna.
Oh là là.
La première nuit, dans ses bras, j'ai cru mourir. J'ai vu le ciel et puis le fond des soupirs. C'est un volcan, cette fille-là.
Oh là là,
c'est le Vésuve et l'Etna. D'un cœur de femme en fusion. C'est un volcan, cette fille-là.
Oh là là.
C'est le Vésuve et l'Etna.
Oh là là.
Tout au début, j'ai cru à notre romance. J'ai succombé devant toutes ces exigences. C'est un volcan, cette fille-là.
Oh là là.
C'est le Vésuve et l'Etna. Je croyais que c'était des histoires.
Hey, hey, repose-toi et va dormir plus souvent.
Elle ne m'en laisse pas le temps.
Hey, hey, hey.
Hey. Je ne mange plus et j'ai perdu mon travail. Si ça continue, bientôt je serai sur la paille. C'est un volcan, cette fille-là.
Oh là là.
C'est le Vésuve et l'Etna.
Oh là là.
Malgré tout ça, je suis heureux, croyez-moi. Nous partageons au fond les mêmes passions. C'est un volcan, cette fille-là.
Oh là là.
C'est le Vésuve et l'Etna.
Oh là là.
C'est un volcan, cette fille-là.
Oh là là.
C'est le Vésuve et l'Etna.
Le Vésuve et l'Etna par le chanteur Jacques Bulostin, alias Monty, 1971. Pendant que Graziella et son nouveau héros retournent chercher quelque intimité dans la cellule du gladiateur à la caserne, les autres combattants poursuivent leur chemin jusqu'au forum qui bruisse cette fin de journée des conversations des Pompéiens. De quoi cause-t-il ? De la reconstruction, pardi. Mais reconstruire une ville, aussi petite soit-elle, exige de l'argent, des montagnes de sesterces. En 62, l'empereur Néron, qui s'était lassé d'Octavie, sa précédente épouse, avait donc pris pour nouvelle femme Poppée, une fille de Pompéi, ce qui, au début, avait bien signifié pour les habitants de cette ville un accès direct à la banque centrale pour reconstruire la cité après le tremblement de terre de février 62. Sauf que, dans la foulée de la secousse de Pompéi, Rome avait à son tour été frappée par un accident, dévastée 6 jours et 7 nuits durant par un incendie gigantesque. La priorité était dès lors de remettre sur pied la plus grande ville du monde. L'argent, des travaux, est donc dans toutes les conversations. On fait appel à des particuliers comme Caius Cuspius Pansa et son fils qui financent la restauration de l'amphithéâtre dont la voûte menant aux arènes s'est effondrée. Trouver des fonds. Telle est l'ambition de Flavius Julius, le mari de Graziella, qui s'est mis en tête qu'il parviendrait à convaincre le Sénat de financer au moins la reconstruction du temple d'Apollon. La religion, qui constituait bien alors un impératif à Pompéi. Après le tremblement de terre de 62, le premier acte de la cité en deuil avait été religieux. Il fallait apaiser la colère des dieux qui s'étaient manifestés par les secousses et offrir des sacrifices expiatoires. Parmi les cultes divers alors en cours à Pompéi, celui des dieux égyptiens et orientaux, de plus en plus à la mode. Parmi eux, la déesse Isis, déesse égyptienne, patronne de la mer et des marins.
Oh, yeah.
Isis et Osiris accorder la sagesse au nouveau couple, diriger vers eux les pas du voyageur et accorder-leur la fermeté dans le danger. O Isis und Osiris Schenket, extrait de l'acte 2 de la flûte enchantée de Mozart, interprété par le chanteur Kurt Moll et l'orchestre de Vienne sous la direction de Sir Georg Solti. Des prières aux dieux, les Pompéiens en avaient adressé au lendemain du tremblement de terre de 62, et bientôt, ce mois d'octobre 79, ils allaient avoir l'occasion de les renouveler. Ce matin-là, ils sont quelques esclaves regroupés autour de la margelle d'une fontaine, venus recueillir de l'eau, sauf que la bouche de la tête sculptée dans le mur reste désespérément sèche, pas une goutte. Dans la nuit, les puits se sont taris, les fontaines se sont vidées. Mais là encore, pas plus que l'abaissement de la nappe phréatique, de nouvelles secousses n'alertent les Pompéiens.
I'm carve the river, carry the way. Then carve the boatman falling from grace.
J'entends le tonnerre déchirer le ciel, j'entends des voix demander pourquoi, j'entends des gens fuir, des châteaux s'effondrer, des marins tomber en disgrâce. Pompéi par les Britanniques du groupe Archie Bronson Outfits, 2004. Pour l'heure, ce jour d'octobre 79, à Misène, à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau de Pompéi, Pline l'Ancien, qui commande la flotte romaine de la région, prend justement son bain. C'est alors qu'on l'appelle pour lui montrer au loin un phénomène étrange. La montagne, située de l'autre côté de la baie de Naples, est entrée en éruption. Pline, que l'étude de la nature passionne, demande qu'on affrète un bateau afin qu'il puisse se rendre sur place et secourir les sinistrés. Il ne reviendra jamais de son voyage et c'est, 30 ans plus tard, son neveu, Pline le Jeune, lequel, pas vraiment téméraire, avait préféré rester ce jour-là à la maison, qui fournira le seul témoignage visuel de l'éruption. « Un nuage part de la montagne », écrit-il. « Par sa forme et son allure générale, il ressemble à un arbre, et plus précisément, à un pin parasol ». Vers 10h du matin, ce 24 octobre de l'an 79, le Vésuve était donc entré en éruption. Du cratère de la montagne qu'on croyait endormi, s'était élevé un immense champignon de poussière, lequel, arrivé à une certaine altitude, était retombé sur toute la région. Les Pompéiens, comme les autres habitants des villes de Campanie, avaient vu le ciel s'obscurcir. Les cendres projetées s'étaient solidifiées dans l'air et, une demi-heure après le début de l'éruption, étaient retombées en une multitude de pierres ponces. Au total, 3 km cubes de matériaux avaient été projetés pendant une trentaine d'heures. Tandis qu'Herculanum était submergé par une coulée de boue, à Pompéi, on avait d'abord prié et attendu. Sous le poids des pierres accumulées sur les toits, les structures s'étaient effondrées. D'autres, croyant assurer leur salut en se réfugiant dans les caves ou sous les voûtes, avaient péri, asphyxiés par les vapeurs sulfureuses. Rome, avertie de la catastrophe par la propagation jusqu'à elle des cendres et des poussières par les vents, avait envoyé une commission d'enquête. Du forum de Pompéi n'émergeait plus que quelques colonnes. On avait d'abord limité les recherches aux seules statues religieuses et objets cultuels, histoire que les dieux honorés à Pompéi ne soient pas abandonnés. Quelques fouilles avaient bien été menées par des privés, avant que l'herbe et les ceps de vigne ne prennent possession du paysage. Il faudra ensuite attendre le XVIIIe siècle pour que ne soit progressivement redécouverte, sous plusieurs mètres de pierres ponces et de cendres, la petite cité de Pompéi. En 1855, l'archéologue Ernest Breton écrivait « Il est des hommes auxquels la mort a donné une renommée que l'obscurité de leur vie ne semblait pas leur promettre. Il est des villes qui ne sont devenues fameuses que par leur destruction. Tel fut le sort de Pompéi. » Était alors née une fascination nouvelle pour les ruines, un tourisme associé, faisant de Pompéi un objet permanent de fascination pour les hommes, Alain Delon compris.
Je n'ai jamais eu beaucoup de temps pour m'intéresser à l'histoire, et je le regrette. Je suis très attiré, en tout cas, par tous les vestiges du passé. Pas spécialement pour leur beauté, ou la qualité d'une architecture, ou d'un site, mais par tout ce qu'ils nous révèlent de la vie et des hommes d'autrefois. La culture, disait un homme d'État français, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout oublié. Je ne me prends certes pas pour un homme cultivé, mais j'aime à m'approcher de toutes ces émanations du passé dont la France et l'Italie offrent tant d'exemples. C'est aussi vrai pour bien d'autres pays.
Breath and count to 10.
feel the earth move, and then hear my heart burn. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall.
C'est sur ce Skyfall signé Adele que se referme ce numéro de Métronomique, aujourd'hui Pompéi, Memento Mori. Pour en savoir plus, lisez notamment Pompéi ou Le rêve des ruines de Claude Aziza ou bien encore À Pompéi par Robert Etienne. Toutes ces informations, la réécoute et le téléchargement, la liste des morceaux diffusés, les références des extraits de films, c'est sur franceculture.fr à la page de Métronomique. Métronomique, c'est Cyril Baer à la documentation, Antoine Villot de la discothèque de Radio France et les conseils de Julie Béressy. Aux manettes aujourd'hui, c'était Céline Guéribi. La réalisation était signée comme chaque semaine Anne Kobilac. Au micro, Amaury Richardot. À vendredi prochain pour l'avant-dernier Métronomique de la saison. Nous serons à Stockholm pour une nuit sans fin.